Merci d'écouter RFI. 7h du matin à Washington, il est midi en temps universel.
RFI midi.
L'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. On est prévenus, ça ne fait que commencer. Discours de Donald Trump devant le Congrès hier soir. Le premier de son second mandat qui a débuté sur les chapeaux de roue. Un grand show devant des républicains exaltés et des démocrates dépités. On y revient dans un petit instant.
Et on en parlera aussi après votre journal avec notre invitée spécialiste des États-Unis et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès.
La nouvelle politique américaine, son désengagement en Ukraine et les inquiétudes en Europe avant un sommet sur la sécurité demain à Bruxelles. Le président Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir 20h. L'Allemagne, elle, annonce des investissements records pour sa défense, quoi qu'il en coûte.
RFI.
À suivre aussi la mise en garde du nouveau chef d'état-major israélien contre le Hamas. La mission n'est pas terminée, dit-il. La sécurité intérieure israélienne, elle, reconnaît avoir échoué pour empêcher les attaques du 7 octobre 2023. En Italie, le drame du Summer Love devant la justice, cette embarcation de migrants qui avait fait naufrage en Calabre en février 2023. Et puis, LeBron James, décidément The King, le roi du basket, le premier à franchir la barre symbolique des 50 000 points en NBA. Le journal des sports, c'est dans un quart d'heure.
America is back.
L'Amérique est de retour. Promesse de Donald Trump hier soir. Discours d'1h40, le premier depuis sa réélection en janvier devant un congrès très divisé. Il avait annoncé un grand show, Marine de la Moissonnière, promesse tenue.
Oui, des déclarations tonitruantes, des affirmations assénées à coups de superlatifs et des moments dignes d'une émission de télé-réalité, comme par exemple quand Donald Trump annonce à un petit garçon atteint d'un cancer qu'il fait désormais partie du Secret Service, le service de protection des personnalités, bref, de la politique spectacle devant des démocrates qui huent le président et des républicains survoltés. Quant au fond, Donald Trump vante évidemment son bilan.
Nous avons fait plus en 43 jours que la plupart des autres administrations en 4 ou 8 ans. Et nous ne faisons que commencer.
Les expulsions de migrants, les nouvelles taxes douanières, les licenciements de fonctionnaires, la fin des programmes de transition énergétique ou des politiques de diversité et d'inclusion, Donald Trump est fier.
Mes chers concitoyens, préparez-vous à un avenir incroyable, car l'âge d'or des États-Unis ne fait que commencer. Ce sera du jamais vu.
Mais concernant ce futur radieux, aucune nouvelle annonce. Donald Trump redit qu'il compte prendre possession du canal de Panama et du Groenland. Il promet aussi des baisses d'impôts et un budget à l'équilibre.
Voilà, du jamais vu, hein, dit Donald Trump, qui a reconnu dans ce discours que la guerre commerciale, ces nouvelles taxes imposées à la Chine, au Canada et au Mexique, allaient causer, je cite, « quelques perturbations ». Ottawa a déjà promis des mesures de riposte à cette hausse des droits de douane. La bourse de Wall Street a fini dans le rouge hier et les consommateurs américains s'inquiètent des conséquences sur le coût de la vie. Reportage à Cumming en Géorgie, Edouard Maé.
Devant un supermarché, Ariana charge ses courses dans le coffre de sa voiture. Les œufs, les chips, les jus de fruits, tout est tellement déjà cher, dit la mère de 3 enfants originaire du Mexique, et elle craint une augmentation des prix avec les droits de douane.
Les personnes avec des revenus modestes ne vont pas réussir à remplir leur panier. Ce sera plus dur d'acheter les produits du quotidien. Déjà avec 100 dollars, vous n'avez rien. Il faut mettre 300 ou 400 dollars pour pouvoir nourrir 5 personnes pendant une semaine.
Une inquiétude partagée par Debbie, qui anticipe déjà devoir faire des concessions.
Je ne me vois pas payer 2 dollars pour un avocat quand on en avait 5 pour 1 dollar avant. Je vais laisser tomber certaines choses et n'acheter que ce qui est nécessaire.
En plus d'augmenter les prix, dit Charles, Donald Trump détériore les relations économiques mondiales.
Il nous isole de nos alliés. Le Canada et le Mexique ont été de très bons alliés jusque-là, même si la relation n'était pas parfaite. Et c'est pareil avec les pays européens.
Face à ces mesures, Charles comprend que les pays concernés mettent en place à leur tour des droits de douane sur les produits américains. Edward May Cumming en Géorgie, RFI.
Dans son discours hier, Donald Trump a aussi dit avoir reçu une lettre du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Une lettre en faveur de négociations pour une paix durable en Ukraine, selon lui pour la reprise du dialogue après la rencontre houleuse dans le bureau ovale la semaine dernière. En pleine incertitude sur la suite de ce conflit en Ukraine, alors que les États-Unis ont suspendu leur aide militaire à Kiev et annoncé des négociations directes avec la Russie, les Européens vont se retrouver demain en sommet extraordinaire sur la sécurité à Bruxelles. Et avant cela, le président Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir, allocution prévue à 20h. Valérie Gas, c'est une nouvelle étape de la communication du chef de l'État autour des conséquences de la guerre en Ukraine.
Ce soir, Emmanuel Macron va jouer la carte de la solennité pour expliquer aux Français les enjeux de la négociation pour tenter de sortir de la guerre en Ukraine. Cette prise de parole télévisée intervient après d'autres exercices de communication du président de la République pour planter le décor de ce qu'il pense être un tournant dans les relations internationales. Emmanuel Macron a d'abord choisi de s'entretenir avec la presse quotidienne régionale, presse écrite de proximité, dans une interview dont l'objectif était de poser un diagnostic en affirmant que la Russie représentait une menace existentielle pour les Européens, puis autre support, autre cible sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a répondu en direct aux questions des internautes, leur donnant les clés de la négociation avec Donald Trump et les messages qu'il allait lui faire passer à la Maison Blanche où il devait être reçu. Aujourd'hui, c'est à tous les Français que le chef de l'État veut s'adresser pour expliquer que la situation en Ukraine, le désengagement militaire annoncé par Donald Trump en Europe font de la défense une priorité pour laquelle il va falloir faire des efforts. Bref, sensibiliser l'opinion française et montrer qu'il est à la manœuvre.
Et la présidence française assure qu'il n'y a pas de nouveau voyage d'Emmanuel Macron envisagé à Washington à ce stade, comme l'avait évoqué un peu plus tôt la porte-parole du gouvernement. Dans ce climat d'incertitude sur l'Ukraine, d'inquiétude, l'Allemagne, de son côté, a lancé les grandes manœuvres pour renforcer son armée. Berlin veut débloquer des investissements records, des centaines de milliards d'euros pour sa défense et son économie, quitte à mettre de côté l'orthodoxie budgétaire, c'est nos limites et c'est un virage historique, Pascal Thibault.
Whatever it takes, quoi qu'il en coûte, le futur chancelier Friedrich Merz hier soir a utilisé la fameuse phrase du président de la Banque Centrale Européenne Mario Draghi durant la crise de la zone euro, la CDU jette par-dessus bord sa traditionnelle orthodoxie budgétaire. Les chiffres donnent le vertige. Des centaines de milliards d'euros vont être mobilisés. Les dépenses de défense, au-delà d'un point de pourcentage du produit intérieur brut, ne seront pas limitées par le frein à l'endettement. En clair, la Bundeswehr disposera d'autant d'argent que nécessaire. Un fonds spécial hors budget de 500 milliards va être créé pour moderniser les infrastructures allemandes qui périclitent, écoles, routes, chemins de fer. Cela devrait aussi booster la croissance après 2 années de récession. Et cela satisfait largement les sociaux-démocrates qui ne voulaient pas que seule la défense profite de généreuses mesures. Les négociations entre chrétiens et sociaux-démocrates devraient être désormais très simplifiées. Plus d'économies à faire a priori. Reste à obtenir la semaine prochaine un vote aux 2/3 du Bundestag pour réformer la Constitution et adopter les réformes historiques annoncées hier soir. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et la Chine, elle aussi, compte muscler son budget de la défense à 7,2% du PIB, malgré la guerre commerciale avec les États-Unis. Annonce de Pékin tout à l'heure, qui affiche un objectif de croissance ambitieux pour 2025, identique à l'an dernier objectif d'environ 5% de croissance.
Au Proche-Orient, le nouveau chef d'état-major israélien prévient contre le Hamas, la mission n'est pas terminée.
C'était lors de la cérémonie officielle en marge de sa prise de fonction tout à l'heure, alors que la suite de la trêve dans la bande de Gaza reste très incertaine. Les pays de la Ligue arabe ont adopté hier un plan de reconstruction pour le territoire palestinien ravagé par la guerre depuis les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël. Et après l'armée, il y a quelques jours, le Shin Bet, autrement dit l'agence de sécurité intérieure israélienne, a rendu à son tour son rapport sur ces attaques du 7 octobre sanglantes. Oriane Verdier, vous êtes en direct de Jérusalem. Le Shin Bet reconnaît avoir échoué, mais pointe aussi la responsabilité des autorités politiques.
Oui, c'est la première fois que la responsabilité même de Benjamin Netanyahou est citée aussi directement par un rapport d'enquête officiel. Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a tout d'abord reconnu que si ses équipes avaient agi différemment dans les années et dans la nuit précédant le 7 octobre, le massacre aurait pu être évité. Mais le rapport dénonce également une politique du silence côté israélien qui aurait sciemment laissé le Qatar financer l'aile militaire du Hamas. Le Shin Bet dit s'être opposé à plusieurs reprises à la politique de Benjamin Netanyahou, consistant à diviser pour mieux régner, c'est-à-dire à encourager la division entre le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. En février 2023, le Shin Bet a également averti que les provocations israéliennes sur le mont du Temple ou bien l'esplanade des mosquées où l'interdiction des prières juives est fréquemment bafouée et le durcissement des conditions de détention des prisonniers palestiniens qui ont commencé sous le gouvernement actuel de Netanyahou pourraient inciter le Hamas à lancer une opération. L'agence israélienne de sécurité intérieure affirme dans son rapport que seule une commission d'enquête d'État pourra permettre de connaître toute la vérité. Le gouvernement israélien repousse cette idée depuis des mois.
Oriane Verdier, en direct de Jérusalem, moyen technique assuré par Julien Boileau.
Le drame aurait-il pu être évité? Un procès s'est ouvert en Italie un peu plus de 2 ans après un naufrage meurtrier en Calabre.
Celui du Summer Love, cette embarcation qui transportait environ 180 personnes à bord, des migrants originaires d'Afghanistan, d'Iran, de Syrie et du Pakistan. 94 étaient morts et la responsabilité de la police des douanes et des gardes-côtes est mise en cause, Anne Lenier.
Les faits remontent à la nuit du 25 au 26 février 2023. Un avion de Frontex repère un bateau au large de Crotone et le signale aux autorités italiennes. Mais ces dernières sous-évaluent l'avertissement et n'activent pas le plan de recherche et de sauvetage alors que la mer est très agitée. Sans doute par manque de transparence dans les échanges de communication entre les 4 officiers de la police des douanes et les 2 responsables de la garde côtière de permanence. À l'aube, des pêcheurs locaux découvre la tragédie. La mer a commencé à rejeter sur la plage de Steccato di Cutro des corps d'enfants et d'adultes. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les secours s'activent. Trop tard pour 94 migrants et un nombre incalculable de disparus. Seules 80 personnes survivront au choc du bateau surchargé qui a heurté des rochers avant de se briser à quelques mètres des côtes de Cutro. Le procès devrait être déterminant pour répondre à la question suivante. Les migrants partis de Turquie auraient-ils pu être tous sauvés? Anne Lenir, Rome, RFI.
La Turquie justement a annoncé la construction d'un mur à sa frontière avec la Grèce et cela pour prévenir les entrées illégales dans l'Union européenne. C'est un début de carême tout particulier pour les catholiques en ce mercredi des cendres alors que le pape François est toujours hospitalisé à Rome dans un état stable. Dans son dernier bulletin, le Vatican indique qu'il s'est bien reposé la nuit dernière.
Elle se rêve reine de Broadway, mais ne décroche que de petits rôles de prostituée ou de serveuse à cause de son physique.
C'est Yvonne Nguyen, le personnage principal d'une comédie musicale qui sort en salle en France ce mercredi. Le premier long métrage du réalisateur Stéphane Lee Klong, il est intitulé Dans la cuisine des Nguyen, film qui met en scène les questions de double culture et de préjugés dans la France d'aujourd'hui. C'est pop et acidulé, Sophie Tarlotin.
Bonjour, je viens pour l'audition. Yvonne Nguyen.
À 38 ans, Yvonne rêve de percer dans le milieu des comédies musicales, mais ses origines vietnamiennes la cantonnent à des rôles stéréotypés. Yvonne va devoir retourner vivre chez sa mère qui rêve qu'elle reprenne le restaurant familial.
Tu vas aider la famille vietnamienne, c'est comme ça.
Stéphane Lee Kuong met en scène et en musique le quotidien d'une artiste toujours renvoyée à ses origines.
On présume forcément que comme on a un faciès asiatique, on parle une langue asiatique. On peut nous demander aux dépotés d'improviser dans notre langue. C'est dire en fait, ton pays c'est le Vietnam, c'est pas la France.
Je vois une geisha en sandales de bois à Hiroshima.
Le directeur artistique des cérémonies des JO, Thomas Joly, se révèle hilarant dans le rôle du metteur en scène sympathique mais très maladroit. Stéphane Likuong traite avec humour et légèreté du racisme ordinaire.
Ça ne m'intéresse pas du tout de me poser en tant que victime. L'humour, la distance, la légèreté permettent de faire passer beaucoup plus de choses. Les personnes blanches dans le film disent parfois des choses un peu racistes, mais la maman vietnamienne aussi.
Dans la cuisine des Nguyen est une véritable capsule vitaminée qui combat tous les préjugés.
Dans la cuisine des Nguyen du réalisateur Stéphane Likuong. Et c'est ainsi que se termine votre journal, Charlotte Hydrac.
À tout à l'heure.
Il est 13h15 ici à Paris et on va parler tout de suite de l'actualité sportive. Bonjour Christophe Diranzio.
Bonjour Anne.
Du football et la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, la grande affiche de la soirée, c'est au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain se mesure à Liverpool.
Deux équipes qui foncent à toute vitesse vers le titre dans leur championnat respectif en ayant largué tous leurs poursuivants. Une forme éclatante de part et d'autre. Un Mohamed Salah intenable côté Reds. 30 buts et 22 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Mais les Parisiens ont du répondant offensif. C'est Ousmane Dembélé qui l'incarne, l'attaquant international. On est à 26 buts, dont 6 en Ligue des Champions. Ses coéquipiers sont sous le charme, mais pas seulement de ses qualités footballistiques, comme l'explique le milieu de terrain João Neves.
Pour moi, Ousmane Dembélé est une bonne personne. Je l'ai déjà dit auparavant, mais je préfère l'homme que le joueur. C'est vrai que c'est un joueur extraordinaire, mais j'apprécie encore plus l'humain. Je suis content d'être là avec lui, j'apprends à ses côtés, et je suis très heureux de ce qu'il a accompli cette saison jusqu'à maintenant.
Et en attendant de voir ce qu'il fera ce soir contre Liverpool, coup d'envoi 20h, temps universel avec Cédric de Oliveira en fil rouge dans Radio Foot International à partir de 21h10, TU.
Dans l'émission, il y aura également des points réguliers sur deux autres matchs.
Oui, le duel 100% allemand entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen et le déplacement du FC Barcelone sur le terrain du Benfica Lisbonne. Une sorte de revanche d'un match de la phase de ligue qu'on espère tout aussi spectaculaire. Souvenez-vous, lors de la 7e journée, les Catalans l'avaient emporté au Portugal 5 buts à 4 grâce à un but de Rafinha à la 96e minute. Cette fois, ce ne sera pas plus simple, prévient Hansi Flick, l'entraîneur du Barça.
Je pense qu'à ce niveau de la compétition, il ne reste plus que des équipes dangereuses. Il n'y a aucun match facile. Chaque club mérite d'être en huitième de finale. Je pense aussi que Benfica est une équipe fantastique. Nous allons jouer dans un stade magnifique. C'est une atmosphère très spéciale là-bas. Les supporters poussent énormément leur équipe. Ce sera très compliqué pour nous à Lisbonne, mais nous avons hâte.
Hansi Flick avant la nouvelle entrée du Barça au stade de la Louche. Un peu plus tôt, 17h45, temps universel, le Feyenoord Rotterdam affrontera l'Inter Milan.
Hier, le Real Madrid a dominé le derby avec l'Atlético. Score final 2-1.
Grâce à un but décisif de Brahim Diaz à la 55e minute, les Merengues ont eu un mal fou à faire la différence sur des colchoneros très hermétiques, si bien que rien n'est encore fait, concède le milieu de terrain français du Real, Aurélien Tchouaméni.
On a gagné ce match à la maison, c'est ce qu'on devait faire, donc on est content, mais on sait très bien que rien n'est terminé. Il y a un match retour à aller jouer, à aller gagner là-bas, donc on va bien se préparer. Il y a un match de Liga qui arrive, donc on va se concentrer sur ça pour le moment. On arrive dans les moments, Ligue des Champions, il n'y a que de très bonnes équipes, surtout l'Atlético qui nous connaît par cœur. Voilà, on a l'habitude de se jouer en Liga, donc ils connaissent nos forces, nos faiblesses. Ça s'est vu aujourd'hui, mais à la fin, on a fait ce qu'on a voulu faire, même si je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire mieux, mais on a gagné, c'est le plus important. Il va falloir encore élever le niveau de jeu au prochain match pour gagner.
Aurélien Tchouaméni sur Canal+. Alors si leur suspense reste entier à Madrid, il s'est totalement évaporé à Eindhoven puisqu'Arsenal a éparpillé l'équipe néerlandaise 7-1. Lille en revanche garde toutes ses chances de qualification après avoir obtenu un nul 1-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Enfin Aston Villa a pris une bonne option pour les quarts de finale en allant battre Bruges 3-1.
Enfin on va parler de basket. LeBron James continue d'affoler les statistiques en NBA.
Et oui, le vétéran des Lakers de Los Angeles a beau avoir 40 ans, ans, il parvient à battre encore un record, en l'occurrence franchir la barre des 50 000 points marqués durant sa carrière, saison régulière et play-off confondus. C'est alors d'un match contre la Nouvelle-Orléans, un panier à 3 points sur une passe de Luka Doncic, et le voilà plus que jamais au-dessus de tout le monde, sachant qu'il était déjà depuis 2 ans, il avait battu ce record déjà il y a 2 ans, après avoir dépassé le légendaire Karim Abdul-Jabbar.
Voilà, on peut avoir 40 ans et être toujours au top.
Ah, absolument.
Merci Christophe Diremzian.
RFI. Le Monde à midi.
Tout de suite, on va revenir avec notre invité sur le discours prononcé hier par Donald Trump, un mois après son retour à la Maison Blanche.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Plus d'une heure et demie d'un discours à sa propre gloire que nous évoquons avec une historienne, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Ludivine Gilly.
Bonjour.
Le président américain a répété hier que ce n'était que le début. Ça veut dire qu'il ne faut pas du tout s'attendre à un changement de méthode, de forme de sa part ?
Non, très probablement que non. On peut s'attendre à une réduction du rythme auquel se produisent les actions et les mesures, car il en a déjà pris énormément au cours de cette quarantaine de premiers jours. En revanche, sur la forme, effectivement, on peut s'attendre à ce que ça continue de la même manière.
Alors, sur les dossiers qui ont déjà suscité beaucoup de critiques récemment, je pense par exemple à l'humiliation infligée à Volodymyr Zelensky vendredi dernier à la Maison Blanche, ou encore aux droits de douane imposés au Canada et au Mexique, on voit que l'administration nuance ou revient en partie sur ce qui a été décidé. Hier, par exemple, le ton était beaucoup moins virulent à l'égard du président ukrainien. Et puis, on évoque déjà des discussions avec les autorités canadiennes et mexicaines. Ça va ressembler à ça, les 4 années à venir, à un bras de fer permanent ?
Il est difficile de prédire à quoi ressemblera l'avenir, en particulier quand il s'agit de Donald Trump, parce que l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est imprévisible. Ensuite, effectivement, il a une façon de faire qui tend à démarrer en force pour ensuite, alors pas forcément rétro-pédaler, mais revenir à la table des négociations s'il obtient des concessions de la part de ses adversaires. Ça, c'est vrai en particulier sur le plan international, c'est aussi vrai sur le plan intérieur, mais avec moins de marge de manœuvre probablement sur le plan intérieur qu'avec ses adversaires ou ses opposants au niveau international.
Justement, sur le plan intérieur, on va en parler. On a vu hier au Congrès des élus démocrates avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire par exemple « c'est faux » qui ont été brandies à certains moments du discours, ou encore « Musk vole et sauver Medicaid ». Il y a eu aussi une interruption du discours hier.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat.
Discours interrompu de Donald Trump et puis Al Green, élu démocrate, expulsé de la salle. Ça donne une idée de l'ambiance au Congrès, des débats qui peuvent survenir dans les années qui viennent, selon vous ?
Oui, effectivement, ça donne aussi les différents types de réactions qu'on a eues de la part des démocrates montrent aussi la difficulté qu'a le Parti démocrate à choisir une stratégie face à Donald Trump. Certains élus avaient choisi de boycotter. Un élu, notamment Chris Murphy, a tenu un contre-discours au moment où Donald Trump s'exprimait. D'autres élus ont assisté au discours en montrant leur désaccord avec ces fameuses pancartes. Al Green, lui, a choisi de s'exprimer. Il s'est exprimé à la sortie également, après avoir été expulsé. Il a expliqué ce qu'il avait dit, puisque quand on écoute le discours, on n'entend pas forcément ce que les opposants ont à dire. Donc ça a été une manière pour lui de faire passer son message. Mais on voit que les stratégies ont été très différentes au sein du Parti démocrate. Et c'est peut-être une difficulté pour ce parti pour être efficace face à toutes les mesures que met en place Donald Trump aujourd'hui.
Et qui sont extrêmement nombreuses, hein. Donald Trump a vanté d'ailleurs toutes les décisions qu'il avait déjà prises, près de 80 décrets, 400 décisions. Et on a l'impression que, en effet, cette avalanche de décisions, elle assomme, elle paralyse un peu les opposants à Donald Trump.
C'est la stratégie qui était prévue par le camp Trump avant qu'il arrive au pouvoir, contrairement à ce que l'on avait vu lors de son premier mandat où il était arrivé totalement impréparé. Cette fois-ci, il avait dans les cartons de très nombreux décrets. Et effectivement, les dizaines de décrets, on vient de dépasser les 80 décrets présidentiels, plus les proclamations, plus les mémorandas, donc une centaine de mesures présidentielles. Et face à cette avalanche de mesures, il est difficile pour l'opposition, d'une part, de prendre la mesure de toutes les actions qui ont été prises et d'autre part, de préparer un plan de bataille. Sur le plan judiciaire, ils étaient préparés et des recours, de très nombreux recours ont été déposés, mais ça n'est qu'une des manières de s'opposer et pour le moment, il y a beaucoup de divergences stratégiques sur la meilleure stratégie à aborder face à cette profusion d'actions de la part de l'administration Trump.
Il y a une profusion d'actions, mais les thèmes, on les connaissait puisque Donald Trump en avait parlé pendant sa campagne. En fait, il n'y a pas énormément de surprises. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les responsables politiques démocrates de s'organiser ?
Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est simplement la profusion de mesures, c'est-à-dire que le premier, dans la mesure où les démocrates sont en minorité au Congrès, leur seul recours, c'est devant les tribunaux. Et donc, il faut le temps de préparer les mesures qui vont spécifiquement faire obstacle au décret selon la formulation qui a été adoptée, parce qu'on connaissait les thèmes, mais on ne connaissait pas précisément ce qui allait être visé. Et l'autre obstacle pour les démocrates, c'est simplement que ils sont encore en phase de bilan de leur défaite de l'élection présidentielle et ils ont de profondes divergences sur l'interprétation de la défaite et le sens à lui donner. Et donc, ils ne sont pas forcément d'accord ni sur le fond, ni sur la forme, c'est-à-dire qu'est-ce qui a causé la défaite ? Est-ce que c'est un programme trop à gauche ou trop à droite ? Et ensuite, face à cette défaite, quelle est la meilleure stratégie ? Est-ce que c'est de s'opposer à toutes les mesures tous azimuts de Donald Trump ou est-ce que c'est de choisir certaines mesures les plus symboliques et de mettre le paquet sur ces mesures-là ? Et pour le moment, les démocrates n'ont pas fait le point suffisamment entre eux sur le fond et sur la forme.
Alors, il y a quand même, vous nous l'avez dit, des contestations devant la justice. L'administration américaine a écarté, on l'a vu, en un mois, de très nombreux salariés. Elle a commencé à démanteler certaines agences publiques. Donc, sur certains de ces points, il y a des procédures en cours. Mais je voulais vous demander, est-ce que les fonctionnaires, les administrations sont obligés d'être loyales à Donald Trump ?
Oui et non. C'est toute la difficulté de ce qui se passe actuellement. L'administration doit la loyauté à la Constitution. Et donc, ce qui se joue maintenant, c'est si cette administration reçoit des ordres illégaux de la part de la présidence de l'administration Trump, les fonctionnaires de carrière en particulier, puisque les fonctionnaires politiques, eux, vont promouvoir la ligne Donald Trump, mais les fonctionnaires de carrière sont face à un dilemme entre obéir à leur hiérarchie ou obéir à ce qu'ils pensent être le droit et la Constitution, avec pour seule défense de leur côté la justice et les tribunaux, mais la justice prend du temps et demande aussi de l'argent et tout le monde n'a pas le loisir d'attendre les décisions de justice, d'attendre que la justice donne raison. Donc c'est très délicat pour les fonctionnaires en poste aujourd'hui.
Donald Trump, on l'a vu, a une vision du pouvoir qui ne correspond pas du tout au fonctionnement des États-Unis, basée sur un principe de contrôle réciproque entre l'exécutif, le Congrès et la justice. Est-ce qu'il peut, selon vous, modifier durablement le système américain ?
C'est une possibilité. Il a lancé aujourd'hui, il a lancé depuis le 20 janvier de très nombreuses mesures. Une partie des décrets qu'il a signés teste les limites du pouvoir exécutif et justement teste l'équilibre entre les trois pouvoirs. Aujourd'hui, le pouvoir législatif est silencieux. Les démocrates sont en minorité, donc l'opposition pourrait venir de républicains qui trouveraient qu'il va trop loin. Pour le moment, les républicains sont totalement silencieux. Donc pas d'opposition du côté législatif. Reste la question du judiciaire. Aujourd'hui, un certain nombre de juges fédéraux de district, donc premier niveau judiciaire fédéral, ont suspendu, ne se sont pas encore prononcés sur le fond des mesures, mais ont suspendu une partie des mesures. Mais leurs décisions devront être prises dans les semaines et les mois qui viennent sur le fond. Et là, on verra ce que dit la justice au premier niveau, puis en appel, et jusqu'à la Cour suprême. Et il faut quand même rappeler que la Cour suprême, c'est celle qui, en juillet de l'année dernière, a rendu un arrêt qui donnait à Donald Trump une immunité absolue pour les actes qu'il avait pris dans le cadre de ses fonctions présidentielles.
Et c'est cette cour qui va jouer un rôle absolument décisif dans les mois et les années à venir. Merci Ludivine Gilly d'avoir été en ligne avec
nous. Merci à vous.
Directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Ce discours, on y reviendra à partir de 13h, temps universel, avec notre correspondant à Washington. Et dans 30 secondes, l'actualité africaine. À tout de suite.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Depuis son arrivée en France, Lucie Mouchita a été victime de propos racistes et sexistes. Née en Rhodésie, actuelle Zimbabwe, elle pensait être aguerrie, mais rien ne justifie ce qu'elle a entendu. De ses scènes quotidiennes, elle en a fait un recueil où la colère le dispute au rire, un livre intitulé « Expat Blues ».
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.